Avec lui, tu veux rester poigné dans le trafic. Avec lui, jamais besoin de reprise. Le but est tout le temps bon. Pour tout savoir, voici Martin Leclerc.
Je sais pas ce qui se passe en studio aujourd'hui, mais d'après moi, il va y avoir une tempête, quelque chose. On a du fun, on s'amuse, on est très content de rejoindre Martin Leclerc. Salut Martin.
Hey Martin, ça va bien?
Hey, bon matin les gars, oui, ça va très bien.
Ah oui, certain. Martin, on voulait en parler hier, malheureusement, on a manqué de temps. Tu sais quand on parle de Formule 1, souvent, oui, on parle des pilotes, mais les équipes sont tellement plus que seulement les pilotes. Adrian Newey, c'est un des meilleurs de l'histoire dans son domaine. Là, il change d'écurie, il s'en va chez Aston Martin.
Oui, écoute, c'est une nouvelle majeure. C'est un coup de canon incroyable, cette histoire-là d'Adrian Newey. Adrian Newey, écoute, moi, je l'ai côtoyé quand j'ai couvert la Formule 1. Il venait juste de quitter Williams à l'époque. J'ai commencé à couvrir la Formule 1, moi, la saison après le championnat de Jacques Villeneuve, et Adrian Newey venait de quitter l'écurie Williams.
OK.
Et l'écurie Williams n'a jamais remporté d'autres titres après le départ d'Adrian Newey. Il avait dessiné des monoplaces extraordinaires. Vous vous souvenez comment la monoplace de Jacques était dominante, celle de Damon oui. Hill aussi la saison précédente. Après ça, donc, Adrian Newey est parti chez McLaren. Ça a été les heures de gloire de McLaren entre 97 et 2005 avec Mikko Häkkinen. Ça a été, McLaren était vraiment à la fine pointe de la F1. Et Adrian Newey est parti chez Red Bull après ça en 2006. Et depuis que Newey, durant le séjour de Newey chez Red Bull, ils ont remporté les sept titres des pilotes. Et ils ont été absolument dominants. La monoplace de Red Bull la saison dernière, c'était la plus dominante de tous les temps. Et là, si vous avez suivi un peu l'actualité en F1 cette année...
Ah oui, la chicane à poignée chez Red Bull. Là.
Ça a été complètement fou. Là. Il y a eu des allégations d'inconduite sexuelle envers le patron de l'écurie, Christian Horner. Et là, la chicane s'est mise là-dedans. Il y avait... des rumeurs de congédiement de divers membres de la direction et Max Verstappen a dit écoutez moi si vous congédiez mon mentor qui était mêlé à cette histoire-là je vais partir et donc la chicane était prise et Adrian Newey a profité de ce moment-là pour dire ben moi écoutez c'est la fin pour moi j'aime mieux aller voir ailleurs aller me faire voir ailleurs je veux pas vivre dans ce genre de climat-là et je me souviens avoir écrit une chronique le printemps passé qui disait « c'est une catastrophe incroyable, ils viennent de perdre, c'est comme si les Gaulois avaient perdu Panoramix, le gars qui a la potion magique.
Ouais, » le druide.
C'est ça, il vient de sacrer le camp et regardez ce qui se passe chez Red Bull depuis que Newey est parti. Ils ont essayé d'apporter des améliorations à la monoplace, des améliorations aérodynamiques depuis le début de la saison, puis ça n'a pas fonctionné, puis ils perdent du terrain de façon importante par rapport à leurs rivaux McLaren cette saison. Là, ils sont en chute libre, Red Bull. Et donc, cette nouvelle-là, que Adrian Newey s'en va chez Aston Martin, ça vient de changer le plateau de Formule 1 au complet. Il va avoir un nouveau règlement technique, des nouvelles monoplaces en 2026. En F1, donc Newey va avoir tout le temps, il va avoir un an pour dessiner la prochaine monoplace et on peut prévoir que ça va être la meilleure monoplace au sein du plateau. Là, si on regarde, quand il y a eu des nouvelles monoplaces qui ont été dessinées en F1 dans l'histoire récente, au début des années 2010, on est arrivé avec on a ajouté les batteries là, dans les monoplaces pour récupérer l'énergie puis donner de la puissance supplémentaire aux monoplaces. Adrian Newey disait, lui, il disait à ses ingénieurs, écoutez, on va placer les batteries en arrière du moteur. C'est là le meilleur endroit pour placer les batteries. Ça va permettre d'avancer le moteur un peu plus vers l'avant, puis la monoplace va être plus équilibrée, elle va être plus facile à manœuvrer. Tout le monde plaçait ça en dessous du réservoir à essence, les autres monoplaces. Et finalement, à force de se battre avec ses ingénieurs, Newey a eu raison. Puis les monoplaces de Red Bull ont été absolument dominantes. Et quand la F1 est arrivée avec le retour des effets de sol, avec les nouvelles monoplaces en 2022, Newey avait déjà travaillé avec ça. Et on a vu, il a produit la monoplace la plus dominante de tous les temps. Fait qu'il y a des grosses chances que Aston Martin soit une longueur d'avance, ou deux longueurs d'avance sur tout le monde, là, en avant de tout le monde en 2026.
En 26, OK.
Mais ça, Martin, ça. Là, ça va mettre la pression sur Lance Stroll. Je veux dire, c'est bien là. Beau parce que là, papa a l'argent puis il a la monoplace, mais là, il n'avait pas nécessairement toute l'équipe technique derrière lui. Aston Martin, s'ils mettent la main, pas s'ils mettent la main, mais ils mettent la main sur Newey puis s'ils mettent la main sur une voiture si performante, il faut que les résultats soient au rendez-vous.
Oui, alors moi, c'est ce que j'ai hâte de voir là, parce que tu sais, l'écurie appartient au père. Et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont avoir cette nouvelle monoplace-là ultra performante en main? Est-ce qu'ils vont placer un pilote dominant avec Lance Stroll? Dans toutes les écuries, il y a un pilote numéro un, un pilote numéro deux. Ouais. Perez, actuellement, chez Red Bull, n'est pas capable de piloter au même niveau que Verstappen.
Absolument.
Mais j'espère qu'ils ne vont pas prendre la tangente. Premièrement, Alonso va sans doute être là pour au moins piloter cette monoplace-là un an ou deux, mais il va être assez âgé. Là. Les pilotes, ils perdent la vitesse à un moment donné aussi avec l'âge.
Ah oui.
Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont placer Lance Stroll dans un rôle de pilote numéro un puis lui donner un numéro deux encore moins performant que lui? Ce serait une catastrophe. Là, ce serait un gaspillage du talent d'Adrian Newey, à mon sens.
Oui, puis est-ce qu'il y a d'autres écuries qui n'ont pas, Martin, peut-être levé la main pour dire hey, « nous, on serait... » Parce que dans tout ce jeu de coulisses-là, est-ce qu'il n'y a pas eu des chances de le voir atterrir ailleurs dans d'autres écuries?
Oui, mais lui, il va avoir un mot à dire là-dedans, Newey. Là, il va avoir un mot à dire dans
Patente. Dans qui chauffe le char.
Si Lance Stroll, Lance Stroll, là, c'est pas le gars qu'il nous faut et tout ça. Ça va être... On va dire une affaire, ça va jouer du coup dans Simonac parce que c'est le bonhomme qui paye les billes en bout de ligne.
Oui, il y a toujours de la politique en F1, mais Newey est devenu actionnaire. Il n'est pas juste devenu aérodynamicien. Aston Martin est devenu actionnaire aussi. Fait qu'il doit avoir... J'imagine qu'il va avoir un mot à dire. Mais tu as raison, Max, c'est d'autres écuries. Là, tout le monde voulait Adrian Newey dans le paddock. Ferrari semblait être l'écurie qui avait une longueur d'avance avec les mouvements personnels qu'ils ont fait. Oui, Lewis Hamilton qui s'en vient. Mais ils n'ont pas réussi à aller le chercher. Alors, moi, ça annonce la fin de la dynastie de Red Bull. D'ailleurs, on voit déjà là, que c'est en train de s'effriter.
Ben oui.
Je trouve ça très intéressant quand on regarde ce départ-là du côté de Red Bull aussi, parce que toutes les grandes dynasties, souvent, s'écroulent après le départ d'un dirigeant important. La dynastie des années 70, le Canadien, s'est écroulée tout de suite après que Sam Pollock est parti.
Ouais.
Il était en place depuis 14 ans, puis le Canadien avait gagné 9 Coupes Stanley. Aussitôt que Sam Pollock est parti, ça a commencé à s'effriter. Fait que ce qui se passe au-dessus de la pyramide, le leadership en F1, c'est extrêmement important. Quand Jean-Tête est parti chez Ferrari, ça s'est affaissé aussi. Alors, en F1, c'est très, très, très important. Et c'est aussi important qu'avoir un marqueur de 60 buts dans ton équipe de hockey, là, d'avoir un bon aérodynamicien. Ouais. Et Aston Martin vient de réussir ce tour de force-là. Fait que ça va complètement changer les rivalités en F1. Fait que ça va être très intéressant.
Passons au hockey maintenant, parce que à l'ouverture des camps de recrues et des camps officiels à venir, Dawson Mercer a toujours pas de contrat avec les Devils du New Jersey. Il arrive quoi pour lancer des voltigeurs, là?
Oui, j'ai eu quelques conversations au cours des derniers jours, puis j'ai été surpris que j'avais pas suivi avec attention le cas de Dawson Mercer, mais ceux qui connaissent le hockey savent que c'est un excellent jeune joueur là, dans la Ligue nationale, un ancien des voltigeurs de Drummondville. Il a marqué plus que 20 buts en moyenne à ses 3 premières saisons dans la Ligue nationale. Il a eu une saison de 27 buts, 29 passes il y a 2 ans. L'année passée, il a marqué 20 buts, 13 passes, 33 points, mais il a eu moins de temps en avantage numérique avec les Devils. Et c'est un jeune qui n'a pas manqué un seul match à ses trois premières saisons dans la Ligue nationale. Et j'ai fait des petites recherches pour voir un peu ce que ça signifie, ce que Mercer a fait depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Il a marqué 64 buts à date entre l'âge de 18 et 22 ans. Il y a juste 44 gars qui ont fait ça au cours des 15 dernières années. Donc, il est quand même dans un groupe select. Là. Puis, je regardais les Andre Zettel, par exemple, qui a marqué 67 buts entre 18 et 22 ans. Donc, Mercer en a 64. Nathan MacKinnon en a marqué 67 aussi. Donc, c'est pas très, très loin. Un gars comme Gabriel Landeskog en a marqué 66. Travis Konecny, lui, en a marqué 65. Fait qu'on, tu sais, c'est quand même un groupe select.
Ouais.
Et si tu regardes Mercer, comme il joue pas beaucoup, il joue pas tant que ça en avantage numérique, Il y a 54 de ses 64 buts qui ont été marqués à 5 contre 5. Et ça, ça vaut très cher dans la Ligue nationale, des buts marqués à 5 contre 5. Et ça, il y a juste 25 gars qui ont fait ça depuis au cours des 15 dernières années, marqué 54 buts à 5 contre 5 entre 18 et 22 ans. Et juste pour vous donner un exemple, Nikita Kucherov et Nikolaï Ehlers ont marqué 54 buts à force égale à cet âge-là. Mais Mitch Marner et Alexander Barkov en ont marqué 52, donc ils en ont marqué moins que Mercer. Fait que tout ça pour dire que...
Il est à son contrat d'entrée, lui, les boys?
Il vient de terminer son contrat d'entrée. Okay. Puis la tendance qu'on voit dans la Ligue nationale de plus en plus, c'est que quand les équipes voient qu'ils ont un jeune comme ça, qui est productif, très jeune, ils essaient de lui donner
Comme Slavkovski, comme Montréal a fait avec Slavkovski.
Oui, mais ils n'ont pas l'espace pour lui donner un contrat de 8 ans. C'est ça le problème, les Devils. Ils sont coincés.
Exactement. Tu as tout à fait raison, Anthony. La tendance, c'est ça, c'est de donner des contrats à long terme, d'acheter des années d'autonomie le plus tôt possible pour pouvoir répartir l'argent, pour pouvoir être le plus compétitif possible sur le plafond salarial. Et là, les Devils semblent avoir mal calculé leur affaire. Ils ont comme 4,9 millions de marge sur le plafond. Fait qu'ils veulent lui donner un contrat à court terme. Ils veulent pas le payer trop à court terme. Et ça, ça les rend peut-être vulnérables. Là, je sais de source sûre qu'il y a des équipes qui regardent ça, qui se disent on pourrait peut-être concocter une offre hostile à la dernière minute pour aller chercher ce jeune-là.
Puis c'est quoi la réalité, mettons, dans le hockey d'aujourd'hui, des offres hostiles? On l'a vu récemment avec les Oilers d'Edmonton. Est-ce que ça peut vraiment créer de la chicane d'un DG à l'autre, d'une formation à l'autre? Parce que, tu sais, on regarde ses stats, tu en as parlé, puis ses trois saisons dans la Ligue nationale de hockey, il a joué les 82 matchs. Ce gars-là, il n'est pas blessé, il joue au complet. Puis sa deuxième saison, 27-29-56. C'est un gars qui a une grande valeur présentement, là.
Exact. Le genre de gars aussi que tu peux placer sur la patinoire en fin de match, même si c'est un jeune joueur. Donc, c'est un gars qui a énormément de potentiel, qui va gagner éventuellement plus que 6 millions de dollars dans la Ligue nationale de hockey. Et là, tu regardes la compensation pour une moyenne salariale de 4,5 à 6,8 millions si tu fais une offre hostile. C'est un choix de premier tour et un choix de troisième. Moi, je trouve que pour mettre la main sur un joueur comme ça, c'est quand même pas cher à payer. Là. Tu regardes l'actualité récente, une équipe comme Columbus, par exemple, qui vient de perdre Johnny Gaudreau dans des circonstances absolument épouvantables, ça doit être très tentant d'aiguiser son crayon, de regarder ça et dire...
C'est sûr.
On peut-tu aller chercher un jeune qui va se grouper et se greffer à notre équipe rapidement comme ça, qui va être performant tout de suite, qu'on peut avoir pour plusieurs années. Et je sais qu'il y a quelques équipes qui sont en train de regarder ça.
C'est sûr.
C'est une situation à suivre. Dawson Mercer, il s'entraîne avec les Voltigeurs de Drummondville présentement. Et ses agents essaient d'attendre de voir comment ça va débouler, mais je trouve que c'est une situation... Il y a un manque de planification.
Son agent, c'est Pat Brisson. Là. Puis Pat Brisson est reconnu pour ne pas faire de cadeaux à personne. Là.
Non. Puis il reste-tu aussi, il reste-tu amer, les gérants? Tu sais, je me rappelle, c'est-tu Kevin Lowe dans le temps qui avait fait un offre hostile, Martin, puis tout le monde était en tabarouette après
Dustin
lui.
C'était pas Dustin
Penner? Ouais, exactement, exactement. Tu sais, ça fait un bout de ça, par exemple, c'était dans les premières. T'sais, on dirait qu'aujourd'hui, ça passe un petit peu mieux. Sauf le propriétaire des Hurricanes de Caroline.
Il l'a encore sur le cœur. On le remercie d'avoir pris Kéké, par contre.
Ouais, absolument, oui, absolument. Mais
le point là-dessus, c'est que tu vois, Gilbert, je trouve ça intéressant parce que les Oilers, ils ont été signés Jeff Skinner puis Victor Arvidsson, puis après ça, ils se sont trouvés pas d'argent pour leurs jeunes. Puis les Devils, eux, ils ont signé Tomáš Tatar, ils ont signé Brett Pesci, ils ont signé Brendan Dillon. Tu sais, ils ont nommé du monde sur contrat. Il n'y a pas un risque, là, Martin, un peu comme les Bruins, de régler tes affaires, mais de prendre pour acquis que ton joueur autonome avec compensation va éventuellement s'entendre. Puis là, tu te trouves à négocier avec le petit bout du bâton.
Oui, bien, tu sais, si tu tiens pour acquis qu'il n'y aura pas d'offre hostile, là, tu peux dire, le gars n'a aucun pouvoir de négociation. Là, il est le seul pouvoir de négociation, okay, c'est de rester chez lui parce qu'il n'a pas droit à l'arbitrage et tout ça. Et là, s'il n'y a pas d'offre, si tu penses qu'il n'y a aucune offre qui va venir d'ailleurs, tu peux dire on va le squeezer et on va le faire jouer pendant 2 ans à 2 quelques millions. Mais ça va te coûter plus cher éventuellement.
T'sais, le gars va te s'accepter. Puis là, sur la messagerie texte, tout le monde veut savoir est-ce que le Canadien a de la place sur la masse comme un gars comme Dawson Mercer présentement?
Ben, le Canadien, au moment où on se parle, est au-dessus de la masse salariale à cause de Carey. Mais là, pourrait placer Carey Price sur la liste des blessés à long terme durant la saison morte. Sauf qu'en faisant ça, tu t'enlèves des avantages. C'est très compliqué, là. Même moi, il y a beaucoup de détails qui m'échappent. Mais il y aurait possibilité, oui.
Ouais. Alors, écoutez, moi, je trouve que c'est une situation à suivre. Ça va sans doute commencer à sortir là, dans les grands titres au cours des prochains jours parce que le camp approche. Mais c'est très, très rare que tu vois un jeune qui a été productif comme ça, qui a été présent à tous les matchs, qui a de cette, un jeune joueur de cette qualité-là, qui est laissé sur les lignes de côté comme ça parce que son équipe n'a pas bien planifié ses affaires.
Anthony, tu n'étais pas pour ça parce qu'on perdrait un choix de 1 puis un choix de 2.
Un choix de 1 et un choix de 3.
Pour Mercer, voilà. Là. Non, mais c'est important. Là.
Ben, honnêtement, c'est non, la question se pose.
Moi, non, mais moi, la question se pose. Je me pose pas de questions. Mais, ah, oui.
Pas de questions.
Ah oui, vite. Ben oui, on a un choix d'un, un choix de deux qui va jouer dans 7 ans. Là. Ah oui, Mercer, il est jeune. Puis il va...
J'avoue que si on avait fait ça l'année passée, on aurait juste perdu Ivan Demidov. C'est pas grave. Là. Ça, j'avoue. J'avais pas pensé à ça.
Ah, il est quoi? J'ai pas regardé ça.
Ah, c'est vrai, Demidov va en scorer 40 à sa première saison. Puis 50 à sa deuxième.
Ça se peut?
Ça se peut. Ça se peut que non aussi.
Tu vois, Martin, avec quoi je deal quotidiennement, c'est comme ça tous les matins.
Il va peut-être avoir une tempête, t'avais raison.
Peut-être. Excellent, Martin. Mais
c'est ça, tu regardes ce que Mercer a fait depuis ses débuts, je pense que c'est un des 3-4 joueurs les plus productifs de son année de repêchage.
Ah oui. Puis, c'est un two-way player en plus, c'est un gars qui joue dans la puissance de l'Atlas. C'est un joueur complet, là.
C'est solide. Là. Fait qu'il y a une occasion là, pour planter un couteau dans le dos des Devils et j'ai hâte de voir si quelqu'un.
Puis je me trompe pas, il a joué un peu pour les Saguenayens de Chicoutimi en plus.
Oui. Non, oui, c'est exact.
C'est le saut de qualité ben, parfait.
Absolument, hein? Martin. Absolument.
Quand tu as joué à Chicoutimi, là, c'est un vrai. Martin Leclerc, merci beaucoup.
Salut, Martin.
Salut les gars.
À demain, ouais. Même heure. Mais rapidement, je veux qu'on prenne le temps parce que sur le message de texte, plusieurs personnes le demandent. Je sais qu'il y a, des, il y a bien des affaires là-dedans, mais Carey joue encore sur la masse. Il faut le mettre sur la liste des blessés à long terme. On a jusqu'à quand pour faire ça, mettons?
Fond, c'est très compliqué. Là. Il y a deux listes des blessés à long terme dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Tu as le droit de placer ton joueur sur la liste des blessés à long terme durant la saison morte ou durant la saison régulière. C'est pas la même chose.
Okay.
Tu n'as pas les mêmes avantages. Kent Hughes, depuis le début, en habillant pas nécessairement 23 joueurs pour le premier match de la saison régulière, réussit à inclure le contrat de Carey Price sur la masse salariale.
Ouais.
Et du moment que la saison a commencé, le contrat de Carey s'en va sur la liste des blessés à long terme. C'est donc dire qu'on tire tous les avantages possibles de cette liste des blessés-là avec Carey Price. Mais si jamais, demain matin, les Oilers disaient « Hey, on vous échange Connor McDavid contre Justin Barron », mais clairement, le Canadien placerait tout simplement Carey Price tout de suite sur la liste des blessés à long terme. Je veux dire, on s'arrangerait pour le faire en cas extrême, mais Kent Hughes et John Sedgwick ne veulent pas utiliser cette avenue-là parce que ça leur permet. Puis là, c'est compliqué, mais c'est des sous que tu économises plus que tu es capable d'être à côté sur le plafond. Tu économises des sous, tu vas te chercher. Donc, si jamais tu as des joueurs qui obtiennent des bonus, ben, cet argent-là n'est pas. Parce que sinon, ça serait repoussé sur l'année suivante. Donc, ça hypothèque ta masse salariale pour l'année d'après. Donc, on évite d'avoir ces problèmes-là en composant avec tout ça. Mais c'est des trucs très comptables qui, même moi, honnêtement, je comprends pas à 100%.
C'est 2 ans de Carey Price comme ça.
Il reste 2 ans à 10,5 millions. Puis au moment où on se parle, les Canadiens, c'est comme 300 000 au-dessus de la masse. Mais comme je vous dis, tu peux identifier les 23 joueurs de ton équipe, mais surtout les 20 qui vont être sur la glace pour le premier match. Puis là, tu n'en habilles pas 23, tout simplement. Puis là, ben, tu viens de te chercher un million supplémentaire de flexibilité. Puis là, il n'y a pas de danger qu'il y ait une blessure parce que de toute façon, c'est juste pour le premier match. Et après ça, ben, tu rhabilles ton 23e et tu mets Carey sur la liste des blessés à long terme.
Oui, parce que c'est le gros contrat. Alors que tout le monde dit qu'il ne jouera jamais au hockey dans le National Hockey.
Ah, tout ça, tout le monde le sait, mais c'est une question d'assurance.
C'est une question d'assurance parce que prendre ta retraite, c'est pas avantageux. OK, très bon.